Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
Le témoin de ce vendredi, Jacques Semelin.
Je me suis installé dans ces contrées lointaines où l'on ne voit plus le soleil. Sur ces terres hostiles, j'ai appris à vivre. J'y ai acquis de nouveaux réflexes, découvert une autre manière de percevoir la réalité. J'y ai fait surtout la connaissance de nouvelles personnes dites non-voyantes, parfois exceptionnelles. Si vous en doutez encore, je peux l'attester, les Miros sont des êtres humains comme les autres. Et je peux aussi vous assurer qu'on rencontre même parfois, oui, des emmerdeurs.
Mais il y a aussi des emmerdeurs chez les clairvoyants. À son premier interlocuteur au CNRS qui lui demandait « Mais comment allez-vous lire les textes que je vais vous transmettre ?» Jacques Semelin répondait « Je me débrouillerai, voilà tout. » Comme Françoise Madré-Lessigne, qui reçut à l'agrégation, dut se soumettre à une visite médicale et répliqua au docteur alarmé « Mais est-ce que je vous demande comment vous auscultez ?» La résistance civile dans l'Europe nazie, l'entraide aux Juifs en France dans la même période, l'histoire de la radio pendant la guerre froide, la liberté au bout des ondes, etc. Jacques Semelin souhaite que tous les livres qu'il a produits soient lus, utilisés, discutés à l'aune de leur contenu. Directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po, ces titres auxquels il ne songeait aucunement dans sa jeunesse lui donnent une position qu'il a acquise par le travail scientifique. Il souhaite évidemment qu'on la considère comme telle. Mais il se trouve que sa condition privée est particulière. Son premier livre, sa thèse plus tard, était aussi des courses de vitesse contre la cécité. Et puisqu'aujourd'hui, il en est venu à écrire aussi sur celle-ci, il ne sera pas interdit de lui demander comment se sont tissés, dans sa trame de vie si solide, le fil de la vue qui baisse et le fil de la recherche qui progresse.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Jacques Semelin, bonjour.
Bonjour.
Vous racontez, aux éditions des Arènes, votre séjour au Québec. C'est un nouveau livre. Et vous dites, il y a des expressions formidables au Québec. Il y a celle-ci, quand on veut entrer au cœur du débat, eh ben, on met la table. Vous avez, entrons au cœur du débat, longtemps tu à votre famille, à vos collègues de travail, que vous perdiez la vue.
Absolument.
Et vous venez de publier deux livres, je rappelle le titre du dernier aux arènes, Je veux croire au soleil, où vous parlez de cette question. Et vous pensez que ça suffit de les avoir écrits, qu'on ne va pas en parler davantage.
Ben, on en parle un peu quand même, puisque vous m'invitez aujourd'hui.
Mais ça vous gêne en même temps de parler de ce sur quoi vous acceptez d'écrire?
Non, plus maintenant, parce que quand vous avez évoqué mon recrutement au CNRS, ben oui, c'était une période où j'avais vraiment très très peu et où pas du tout envie d'en parler. C'était une posture que j'avais depuis très très longtemps. Ça consistait à dire circuler, y a rien à voir. Mais maintenant, je l'assume et je l'assume tellement que il ne se passe pas une semaine qu'une personne que je ne connais pas me dit « Mais comment vous faites ? Comment vous faites ?» Alors, bon, voilà, vous avez mes livres maintenant.
Vous en parlez, sans pathos inutile, avec humour. Quand vous commencez vos cours, vos étudiants à l'Université de Montréal, vous avez cette remarque. Vous avez de la chance, je suis un professeur, à certains égards, moins difficile que d'autres.
Oui, c'est ça. Alors, je le fais aussi à Sciences Po, je l'ai fait à Montréal. Je leur dis, vous avez beaucoup de courage d'avoir choisi ce cours sur les génocides, les violences de masse, etc. Mais vous savez, en même temps, vous avez beaucoup de chance. C'est le cours où vous pouvez lire un journal sans vous faire remarquer. Alors, ça provoque souvent un éclat de rire, puis après on passe à l'essentiel.
Alors vous êtes devenu un professeur de l'enseignement supérieur. Vous auriez pu songer, si vous n'aviez pas été guetté par la cécité, à devenir professeur d'histoire dans le secondaire?
Tout à fait. Alors là, vous évoquez mes années au moment du bac, et je savais que j'allais perdre la vue. Je l'ai appris à l'âge de 16 ans. Et donc, j'avais une énorme angoisse, que faire de ma vie, quoi, personnel et professionnel. Et il y avait cette profession d'histoire géo qui m'intéressait beaucoup. Ça tenait aussi à un amour que j'avais pour un professeur de troisième. Et on m'en a dissuadé parce que, monsieur, vous serez refusé au moment de la visite médicale, même si vous avez réussi les concours.
Le goût de l'histoire, Jacques Semelin, c'est un peu le goût des autres. Je ne savais pas que vous aviez été à ce point militant.
Pensez à la période de mon activité dans les milieux non violents.
Vous avez été rédacteur en chef d'une revue alternative
non violente. Voilà, c'est ça. Tiens, à deux choses. C'est-à-dire que dans cette période où je n'allais pas bien, j'ai trouvé un poème, figurez-vous, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, d'un écrivain catholique, Lanza del Vasto. Inspiré par Gandhi, il avait été le voir en 1936. « Tiens-toi droit et souris ». Eh bien, dans ma détresse absolue, ce poème m'a donné une posture. Et puis l'autre chose, qui n'a strictement rien à voir, c'est que je découvrais dans la même époque Bettelheim, les camps de concentration, son texte sur Dachau qui est absolument remarquable, où il a été. Et il disait, les prisonniers politiques, les témoins de Jéhovah, résistent mieux à l'épreuve de la terreur dans ces camps. Et je dis, mais moi, à mon petit niveau, ben, si tu crois à des valeurs, parce qu'ils croient à des valeurs, ces prisonniers, ils savent pourquoi ils sont là, et ben ça va tenir. Et donc, ça, tout de suite, ça m'a ouvert vers une posture morale de résistance.
Voir mal, mais voir loin, c'était votre devise à l'époque où vous rédigiez votre premier livre pour sortir de la violence, publié en 83. Vous vous lancez dans une thèse de doctorat, alors que la cécité gagne. Alors j'en viens à la question que chacun se pose, Jacques Semelin, et d'abord les membres du jury du concours de recrutement du CNRS. Mais alors, comment vous faites? Et alors, lassé, vous finissez par dire aux uns et aux autres, je vais vous montrer.
C'est ça. J'ouvre cette possibilité de m'interroger sur ma manière de travailler. Et je suis connu, en fait, déjà un peu, depuis 2 ou 3 ans, voilà, et on sait que j'y vois pas. Et en fait, il ne me pose aucune question. Voilà, ça a été un recrutement inespéré, reconnu pour ma compétence. Mais malgré tout, après avoir écrit un livre sur les génocides qui s'appelle « Purifier et détruire », j'ai voulu me pencher sur mon histoire. Je ne pouvais pas m'engager dans un si lourd travail à nouveau scientifique, vous voyez. Et à ce moment-là, ça a été « J'arrive où je suis étranger », où je commence à parler de tout ça. Et puis le nouveau, « Je veux croire au soleil », c'est une continuité. C'est-à-dire que là, je me situe comme témoin. Moi, j'ai beaucoup entendu, lu des témoignages de gens qui ont subi la guerre, voire échappé à un génocide. Eh bien, je me fais témoin de ma situation, c'est-à-dire témoin de mon étrangeté au monde. Juste un mot, Jean Lorrain. Entre vous et moi, il y a un mur, vous voyez, un mur de gris. Je suis de l'autre côté du mur. Et ce que je voudrais, c'est arriver à faire passer à vous qui êtes clairvoyants ce que je ressens. Et c'est tout le projet de « Je veux croire au soleil ».
Mais comment élargissez-vous votre territoire? D'abord, on va prendre l'exemple de la lecture. Les aveugles peuvent être aujourd'hui de très grands lecteurs, parce qu'ils n'utilisent plus beaucoup le braille. Vous n'avez pas appris, puisque vous n'étiez pas aveugle de naissance, le braille. Ils utilisent de nouveaux outils. Je vous propose d'écouter Romain Villet, que vous connaissez bien, pianiste, écrivain, documentariste. Lui, il a dans sa poche une petite boîte, Victor. Et Victor permet de lire par séquence, d'annoter, de commenter. Il en discute avec l'écrivain Daniel Pénac, qui s'intéresse et à la lecture audio en direction des malvoyants, et à la lecture avec les outils technologiques d'aujourd'hui.
Un des grands avantages de la lecture par rapport au cinéma, c'est qu'on choisit son débit de défilement. Et Victor me permet de modifier la vitesse.
Cette façon de lire des textes accélérés est votre façon à vous de lire muettement, comme si vous lisiez par la vue. Peu importe l'interprétation, peu importe le lecteur, vous renouez avec le désir de sens pur qu'éprouve un lecteur qui lit de ses propres yeux. Est-ce que c'est ça votre démarche, d'ailleurs?
C'est exactement ça ma démarche. Je vais vous donner un exemple qui va très certainement vous faire hurler. La recherche du temps perdu est enregistrée, notamment par Dusselier. Il se trouve que j'ai relu là en septembre l'ensemble de la recherche du temps perdu et je l'ai relu avec la voix de synthèse plutôt qu'avec la voix de Dusselier. Alors ça va nous donner justement un exemple. Je vais vous en faire écouter un petit bout. Et pour moi, c'est une lecture qui me permet, à mon avis, d'être plus en communion avec le texte.
À quelle vitesse l'écoutez-vous, vous ?
fatigue, mais généralement, je lis à peu près à cette vitesse-là.
Longtemps, je me suis couché de bonheur. Parfois, à peine ma bouche éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire. Je m'endors, et une demi-heure après, la pensée qui était
tendue. Jacques Semelin, je ne sais pas ça que vous utilisez la même méthode, mais on n'arrive plus, nous, les clairvoyants, à vous suivre, là.
Non, non, mais moi non plus, là. Il me bat, là. Ah. Il me bat. Mais ce qui est essentiel dans ce que vous avez passé de Romain, c'est l'idée qu'il y a une révolution depuis une vingtaine d'années dans la manière de lire pour les aveugles. On est passé de la bande magnétique à ce système DESY, hein, qui équipe son appareil Victor. Moi, j'ai un autre système, mais c'est à peu près la même chose. Et on peut lire un livre comme vous, si j'ose dire, avec des chapitres. On peut avoir une lecture active, prendre des notes. C'est une révolution exceptionnelle.
Élargir le périmètre par la lecture, élargir le périmètre par le déplacement. Votre médecin vous avait prévenu, vous ne serez jamais à l'aise que chez vous. Romain Villet, qu'on entendait, a publié récemment un roman chez Gallimard où il raconte que sa compagne l'entraîne dans un trek au Maroc. Ça se passe pas toujours très bien. Eh ben vous racontez dans votre livre aux éditions des Arènes que vous partez tout seul à Montréal pour 2 mois. Pour enseigner. Et alors, comment vous faites à l'aéroport et le studio et le four à micro-ondes et le métro parce que vous refusez le taxi pour aller à l'université?
Mais voilà, c'est le projet du livre, c'est-à-dire d'expliquer aux gens comment je fonctionne, avec quel type d'appareil et comment je construis mon espace, un peu comme Romain Villet à cet égard. C'est-à-dire que moi, je prends la métaphore du gris, je suis dans une sorte de cellule de gris et j'ouvre des lucarnes, j'ouvre des corridors, et à partir du moment où je commence à connaître mon environnement, je me construis une organisation spatiale, mentale de cet environnement. Et c'est amusant parce que il y a des petites surprises. C'est un livre qui, j'espère, est plein d'histoires drôles, mais c'est une manière aussi d'être quelque part dans la tête et le corps d'un non-voyant.
Drôle, oui. Qu'est-ce que je fais avec le four en micro-ondes? Parce que la technologie progresse, mais il y a de plus en plus d'écrans lisses.
Absolument. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la technologie offre beaucoup de possibilités aujourd'hui, mais elle aussi, le problème, c'est les surfaces lisses. Et dans mon cas, je fais un cauchemar, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir me servir de ce micro-ondes. Alors, il y a une personne qui vient m'aider, et ça, c'est essentiel à préciser aussi. C'est-à-dire que les textes sont plus accessibles pour les personnes non-voyantes, mais ça n'empêche l'importance de l'aide de voyants qui vous expliquent des choses. L'aide, c'est de bons yeux intelligents, même pour aller sur Internet, hein, c'est très très important.
Oui, ça c'est la stéréo. Voilà. Je parle à l'historien de la radio que vous êtes. Voilà. Quand même, vous allez attendre votre femme à l'aéroport. Alors qu'au départ, vous êtes parti tout seul aussi. Je m'en vais à Roissy, c'est un matin calme et doux, mais sans rayon de soleil, je crois.
Ah, je suis heureux que vous lisiez cette phrase, Jean.
C'est la première.
C'est la première et elle dit tout du projet littéraire du livre. Parce qu'il y a un projet littéraire aussi. C'est un matin calme, c'est le bruit, ok. Et doux, c'est la température, pas de souci. Mais sans rayon de soleil, je crois. Alors si on y réfléchit bien, cette phrase, elle est étrange pour une personne voyante. Et pour moi, elle me parle beaucoup. Parce que j'en ne suis pas certain. Alors le « je crois », c'est une phrase typique d'une personne aveugle. Il y a un verre sur cette table, je crois, on n'en est pas sûr. Voilà, donc ça dit le projet littéraire dans lequel je vais emmener mon lecteur, c'est-à-dire qu'il va découvrir ma vie, ma perception du monde, à travers les sens qui me sont propres. L'ouïe, le toucher, l'odorat, bien sûr, et puis le sens de l'espace, etc.
Je veux croire au soleil, aux arènes, le récit d'un trip au Canada, enfin vous allez jusqu'à Ottawa. On va entendre les cow-boys fringants, vous avez beaucoup écouté la radio, bien sûr. Au Québec, eux, ils témoignent d'un voyage beaucoup plus long et qui se termine à l'université de Montréal. On y vient dans un instant.
Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Un bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici, y a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, pas motivé plus qu'il faut, c'est pas nouveau.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Anyway, j'suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
Jeudi 5 mai 2016. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M. C'est l'émission Les Voix de Service qui commence et qui va nous permettre de passer, presque 3 heures ensemble. Mais je ne serai pas toute seule avec vous. Je serai accompagnée, vous le savez, de nombreux collaborateurs qui viennent gracieusement, comme ça, prêter, donner de leur temps pour vous faire connaître ce que la vie, malheureusement, ne vous permet peut-être pas de lire directement sur papier. Alors, soyez les bienvenus à l'émission Les Voix de Service.
Soyez le bienvenu parmi nos témoins du vendredi. Jacques Semelin, vous racontez dans votre dernier livre aux arènes votre séjour au Québec, qui vous a permis de rendre visite d'ailleurs à l'association Vue et Voix, qui anime ce canal M dont on entendait un écho. Mmh. Mais d'abord, il a fallu aller à l'université. Ils sont surpris, vos étudiants, ils sont haïtiens, africains, ils viennent d'un peu partout.
Ils sont peut-être un peu surpris, et puis après on prend nos marques, je leur explique ma situation, je leur ai dit de garder à peu près la même place pendant les cours, et puis voilà, mon problème c'est d'apprendre à reconnaître leur voix quand même, et avec un peu de temps ça vient, et puis on va faire un voyage, je leur explique qu'on va faire un voyage, on va partir de sociétés qui vont pas très bien et qui vont évoluer vers la violence de masse.
Dites-moi, vous êtes surpris, vous aussi, par le mode d'enseignement qui vous est demandé, qui est un mode d'enseignement beaucoup plus fondé sur le dialogue.
C'est vrai que en étant en Amérique du Nord, on apprend peut-être à évoluer aussi dans ses méthodes, et ça va être plus, dans mon cas, dans l'interaction.
Et vous racontez le cours, c'est le dernier, vous les avez divisés en deux.
Alors je les ai divisés en deux. On a fait un débat sur la prévention des génocides. Un camp qui croit à la prévention et l'autre qui est très sceptique. Et donc c'est un débat extrêmement vivant, animé. Enfin c'est un petit moment de bonheur, vous voyez, pour un enseignant d'arriver à faire ça. Et ça rentre pas dans leur cliché, je dis bien leur cliché de professeurs français. Et quand on se retrouve à la cafétéria à la fin, c'est la fin des cours, pour eux c'est le début de l'été, etc. Ils me disent, mais vous êtes vraiment un professeur français?
Parce que évidemment vous allez à la cafétéria, il y a rien de pire que la cafétéria pour vous, c'est un cauchemar la cafétéria.
Oui, bien sûr. Il faut demander de l'aide, il faut l'accepter, cette aide, ce qui n'est pas toujours simple, mais voilà, on faut expliquer aux personnes. Et la vie d'une personne non-voyante, c'est toujours une sorte d'équilibre entre la volonté d'autonomie et l'exigence, enfin le besoin de dépendance, en fait, pour répondre à la situation que vous maîtrisez mal.
Je voudrais imaginer le moment qui a dû survenir. Pendant vos cours, vous avez tenté d'expliquer le lien entre le sujet de vos recherches et votre parcours personnel. Ici, on va entendre l'épilogue d'un livre précédent, J'arrive où je suis étranger, lu par Pascal Parsa, les éditions du Seuil, en 7 CD, je crois, ont édité la version audio de ce livre de Jacques Semelin.
Mon attrait pour l'étude du génocide me paraît plus énigmatique. Rien dans mon héritage familial ne m'y prédisposait, n'étant ni juif, ni arménien, ni tutsi. Pourquoi avoir choisi un si funeste sujet, me demandent parfois mes collègues. Je leur réponds parfois, certes, il est éprouvant de travailler sur l'horreur. Mais dans mon cas, c'est un peu plus facile. Au moins, puis-je regarder la réalité en face. Plus sérieusement, Il m'arrive d'expliquer que cet objet de recherche est fondamental pour qui veut comprendre l'homme en profondeur, sa fascinante passion pour le pouvoir, y compris de détruire. Mais au-delà d'une argumentation purement intellectuelle, j'avancerai des éléments liés à ma propre expérience de vie. Bien sûr, ma rencontre avec un lieu nommé Auschwitz, mais peut-être plus encore, l'intimité de mon rapport à la mort. Car j'en suis convaincu, j'ai éprouvé très tôt le sens du tragique, me vivant comme un peu mort alors que j'étais, en principe, dans l'exubérance de ma jeunesse. Perdre ses yeux à petit feu, c'est mourir un peu. C'est sentir très tôt, trop tôt, le sol qui se dérobe sous les pas. Je me demande donc, mais ce n'est qu'une supposition, si la sensation aiguë de la finitude n'aiguise pas le regard pour penser la mort.
Jacques Semelin.
Je suis assez ému d'entendre ce texte, car en fait, c'est toute la période qui a été charnière pour moi, c'est-à-dire de ma visite d'Auschwitz, et le fait que j'y voyais encore un peu, donc j'ai vu ce qu'il y avait dans les vitrines, et je me suis dit, mais de quoi te plains-tu ?
Vous avez vu des tas de lunettes ?
Des tas de lunettes, des tas de chaussures, enfin, est-ce que c'est besoin d'insister sur cela ? Et ça m'a donné la force de finir ma thèse, parce que j'étais pas sûr. Vous avez parlé de ma course vers la course vers la certitude. Ben, c'était la course, en fait, pour arriver à finir cette thèse. Et puis ensuite, ça m'a donné envie, effectivement, de travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah et les génocides. Et dans la foulée, j'ai rencontré Léon Poliakov.
Léon Poliakov, rappelez.
Alors, Léon Poliakov, on va dire que c'est le pionnier des études sur la Shoah en France, le bréviaire de la haine, 1951, si ma mémoire est bonne. Et il s'est aperçu que j'y voyais pas bien, mais on a tout de suite eu une discussion sur le fond, et il m'a encouragé à travailler sur ce sujet, y compris de manière comparative. Donc voilà, ça a été vraiment un moment déterminant, et c'est vrai que ma proximité avec la mort, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ont vécu ces personnes, m'a rendu peut-être plus sensible à ça. Et alors, il se trouve aujourd'hui que depuis mon dernier livre, Persécution et entraide dans la France occupée, j'ai fait beaucoup de conférences, et à la fin, bien sûr, il y a le public juif, et on vient me voir, et me dit, mais vous appelez vraiment Semelin? Ça serait pas Semelin? Alors je dis, non, je suis désolé. Ah bon, ben alors ça doit être Semlinovitch.
Mais vous allez aussi bien au Rwanda. Vous travaillez dans la perspective comparative que vous dites sur les violences extrêmes un peu partout, hélas.
Oui, j'ai été au Rwanda, ça fait un moment que je ne me suis pas rendu, mais effectivement, je suis dans une perspective comparative des violences de masse, des violences extrêmes. Et par exemple, l'année dernière, j'étais à Bangui, en Centrafrique, pas tout seul, hein, évidemment, pour une mission d'enquête sur les violences qui ont été commises dans ce pays.
C'est assez impressionnant de voir d'ailleurs, vous résumez cet enseignement dans votre livre « Je veux croire au soleil », comment vous décrivez l'enchaînement qui amène aux violences extrêmes à vos étudiants. Il y a d'abord la crise économique, il y a la crise de représentativité des institutions, et puis après, une sorte de course, là aussi, qui se met en place et qui n'est pas facile à arrêter.
Exactement, et c'est un processus que je veux inscrire dans n'importe quelle société, y compris une société démocratique. Et je crois qu'ils en ont conscience au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Pour moi, ce qu'on appelle génocide relève d'abord de violence, de la violence extrême, de violence de masse, qui s'inscrivent potentiellement dans toute dynamique sociale.
Ce que vous dites a valeur d'avertissement. Est-ce que vous avez une préscience ? Je vous dis ça parce que le dernier témoignage que je voulais vous faire entendre, Jacques Semelin, c'est celui d'un homme qu'on reconnaît de nouveau, après la publication du livre Le Voyant de Jérôme Garcin qui lui a été consacré. C'est un garçon qui avait 18 ans quand il est entré dans la résistance. Il était encore lycéen. Il était aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il a été arrêté. Il a été déporté. Il a passé 15 mois à Buchenwald. Il s'appelle Jacques Lucéran. Je ne suis pas sûr que l'entretien dont on va entendre un extrait ici en compagnie de Pierre Dumayet soit si connu.
Je ne pense pas que si je n'avais pas été aveugle, je serais entré, comme je l'ai fait en effet, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire tout de même très tôt, dans des activités importantes dans de vraies responsabilités de résistance. Et cela, pourquoi ? Parce que ma cécité m'avait donné une chance, je crois, qui était de faire un bond très brusque dans ma vie intérieure et d'apprendre aussi à regarder tous les événements que je vivais du dedans, si je puis dire. Le point de vue moral sur les choses m'était beaucoup plus naturel du fait que j'étais devenu aveugle ainsi qu'il ne l'aurait été autrement, sans doute. Aussi, lorsque la France a été occupée par l'Allemagne en 1940, sans qu'on ait besoin de me le montrer longuement, j'ai senti que les valeurs humaines étaient mises là en jeu, qu'il fallait par n'importe quel moyen défendre. Et cela, c'est justement parce que mon attention avait été cristallisée sur la signification morale, intérieure, de toute chose, par ma cécité même, qui me permettait de ne plus avoir cette distraction si naturelle aux voyants.
Ainsi parlait Jacques Lucéran à l'époque, une trentaine d'années, du jeune homme de 18 ans qu'il était.
Écoutez, je ne connaissais absolument pas ce propos de Lucéran avec Pierre Dumayet, donc merci de me le faire découvrir. C'est un beau cadeau, puisque en fait j'ai une grande admiration pour Jacques Lucéran, le résistant aveugle. Il a pratiqué la résistance civile, une notion que j'ai proposée dans mes travaux. C'est simplement, moi je l'ai étudié, lui il l'a fait. Mais vous savez, il va y avoir une journée d'études sur Jacques Lucéran à Paris à la fin du mois de juin, et je crois que c'est une très bonne idée qu'a proposé l'historienne Zina Végan. Alors, je suis un peu embarrassé pour commenter ce passage, parce que l'idée que l'aveugle serait un voyant, voire un visionnaire, on peut la retrouver aussi dans le portrait qu'avait fait Marguerite Yourcenar de Borges, me pose problème, si vous voulez. C'est-à-dire que je crois que je ne parlerai pas de l'aveugle en général, mais des aveugles. Et parmi cette population, comme vous l'avez cité au départ dans la présentation de cette émission, il y a des gens plus ou moins intelligents, plus ou moins agréables, etc.
Il y a donc des miroirs emmerdeurs, mais ça, c'est une citation de vous.
Oui, ben oui, c'est ça. Et donc, je voudrais relativiser ce type d'approche de l'aveugle voyant. Voilà. Si il s'agit de parler de mon cas, ça serait quand même un peu compliqué, parce qu'un historien voyant, ça serait un peu problématique. Or, je suis plutôt habité par le questionnement, par le doute, par la volonté de comprendre, la volonté de la recherche. Et s'il y avait une manière de me définir plus précisément par rapport à mon handicap et mon rapport à l'histoire, ce serait de dire que j'ai voulu lutter à travers ma cécité croissante en cherchant la lumière de la connaissance. J'ai cherché à résister au handicap à partir de mon cerveau.
Merci à vous, Jacques Semelin. Je veux croire au soleil, votre dernier livre, en attendant les nouveaux travaux scientifiques. C'est aux éditions des Arènes. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco, avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Raphaël Rousseau.